Alors, il faut prier avant, pendant le message aussi. J'ai une fâcheuse habitude de faire long. Alors, si vous êtes fatigué, priez, intercédez, que j'arrive à être plus court. Ça serait un grand miracle ce soir. Mais je fais des efforts. Vous voyez, il y a des choses que Dieu peut faire et puis il y a notre participation aussi. Alors déjà, je raccourcis l'introduction et je passe au message. L'unité fondamentale, c'est le thème de ce soir, l'unité fondamentale. Il y a ce verset dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vais simplement lire le verset 22, parce que c'est ça qu'on entend tout le temps. Ça nous suffit pour beaucoup de dire qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous savons, en ayant lu tout le chapitre 17, que c'est une prière. Mais quelle magnifique prière que les chrétiens soient unis comme le Père céleste est uni avec son Fils. Quelle prière magnifique. Quelle réalité terrestre, tout autre. Famille chrétienne déchirée, couple en souffrance, Église, schisme, etc. C'est plus souvent la réalité que nous constatons malheureusement. Alors pour éviter ou après constat de désastre, comme quand l'équipe de France vient de perdre son match et que maintenant on dit il faut revenir à quoi ?
Aux fondamentaux.
Aux fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'on perd, il faut revenir aux fondamentaux. J'ai été interviewé il y a quelques semaines par une jeune fille à Aix qui faisait une thèse. Je n'ai pas su exactement ce qu'elle voulait, mais en fait, elle voulait en savoir plus sur l'Église, ce qu'on croyait. Et bon, j'ai accepté, je me suis dit, je vais répondre à ces questions. Je l'ai reçu en tant que pasteur de l'Église biblique baptiste d'Aix-en-Provence. Et parmi toutes ces questions, plus ou moins faciles, théologiques, doctrinales, on en a posé une assez précise, assez pointue. Elle a dit, est-ce que vous êtes des fondamentalistes? Alors, bien sûr, on sent un petit piège derrière la question, parce qu'on connaît la connotation qu'il y a aujourd'hui derrière ce mot-là, les fondamentalistes, ça veut dire fanatique. J'ai réfléchi un tout petit peu, et puis je lui ai répondu oui. Oui, je ne vois pas comment un chrétien pourrait être autre chose qu'un fondamentaliste. Je m'explique. Quand Jésus a parlé de ce que c'est qu'un de ses disciples, il a dit que ça consistait à bâtir sa vie sur le roc de sa parole. C'est assez fondamentaliste, c'est-à-dire bâtir sa vie, sa maison, sur un fondement solide. Un chrétien est quelqu'un qui a bâti sa vie, son espérance éternelle, sur le fondement solide de la parole de Dieu. Alors je dis, mais maintenant, je sais ce qu'il y a aussi derrière votre question, je sais que le mot a aujourd'hui une certaine connotation. Elle me dit, oui, c'est vrai. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par connotation? Ils sont parfois, on pense qu'ils sont durs, enfin, ou cassants, ou qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les autres chrétiens. Et voilà la réputation qu'ont les fondamentalistes aujourd'hui. Alors je lui ai dit, écoutez, ce ne sont pas des fondamentalistes. Je m'explique. Si un fondamentaliste est quelqu'un qui veut vivre ce que le Seigneur lui a demandé de vivre, ce ne sont pas des fondamentalistes, si tout le monde pense d'eux qu'ils sont d'insupportables, durs, cassants, incapables de vivre et de s'entendre avec les autres. Ce n'est pas fondamentaliste d'être ainsi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, dans sa parole, a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. De Timothée 2,5 dit que même un adversaire, on doit le redresser. Comment ? Avec dureté, en faisant tomber l'épée sur sa tête, Avec douceur, on doit redresser avec douceur. Et prenez votre concordance, le mot douceur. Combien de fois le Seigneur nous ordonne, nous conseille, nous exhorte à la douceur, en toutes circonstances, avec tout genre de personnes. Alors, sur la question de l'unité, ben voilà, aujourd'hui, moi, je traite de ce que c'est que l'unité fondamentale. Je ne vais pas vous annoncer de choses nouvelles, pas de révélations extraordinaires, pas de curiosité, pas de... Bon, il y aura bien peut-être une illustration de temps en temps originale, mais rien que des fondamentaux. Revenir aux fondamentaux sur cette question-là. Qu'est-ce que l'unité fondamentale ? Ben, revenons à Jean 17, 1, comme on l'a vu tout à l'heure. Évangile de Jean. Ce que tout le monde nous dit, mais regardez, dans Jean, il est dit ben, qu'on doit être un. Il faut être un, puisque c'est écrit dans Jean, au chapitre 17. Eh ben, regardez de quoi il est question. Je l'ai déjà dit, mais... Verset 1, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » On voit dès le premier verset qu'il s'agit là d'une prière que le Fils adresse à son Père. Une prière n'est pas un programme. Une prière n'est pas une instruction donnée à l'Église. Quand le Seigneur envoie les apôtres, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. » Ça, c'est une instruction, c'est un ordre adressé aux apôtres, puis aux chrétiens par extension. Mais quand le Fils prie le Père, il ne s'adresse pas aux chrétiens pour qu'ils exécutent les choses. C'est Dieu qui exauce les prières, ce n'est pas les chrétiens qui doivent le faire. Dans Jean 11, 42, le Seigneur disait « Je savais, ce n'est pas pour toi que je parle, mais je savais que tu m'exauces toujours. » Ce n'est pas notre cas. Mais le Seigneur Jésus, oui, est toujours exaucé. Pourquoi ? Parce qu'il fait toujours ce que demande son Père, parce qu'il croit toujours que son Père va l'exaucer, parce que toute sa vie et toutes ses demandes sont dans la volonté de son Père. Donc, le Fils peut dire « Je sais que tu m'exauces. » Toujours. Donc, est-ce que dans cette prière de Jean 17, le Père a dit non, là, quand même, il exagère. Que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes... Non, là, tu vises un peu haut, c'est bien, mon fils, mais révise à la baisse tes ambitions et tes prières. Enfin, non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Les mots qu'il a employés sont exactement ce qu'il a voulu dire, et le Père exauce exactement ce que le Fils lui a demandé. Seulement si on va un peu plus loin dans ce chapitre 17, si on voit au verset 22, dans cette même prière sur l'unité, bien le Seigneur continue en disant « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » On voit là qu'il est question de gloire. Et si on continue, « Moi en eux et toi en moi. » Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand vous vous promenez dans la rue, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas seul, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Est-ce que les gens dans la rue vous remarquent, ou le remarquent particulièrement ? Est-ce qu'ils voient que vous avez Dieu en vous, dans la rue ? Est-ce que déjà on vous a arrêté en vous disant « Toi, certainement, tu as Dieu en toi, parce que quand, dans ta démarche, je ne sais pas, ton visage ou ta respiration, ta tenue, tu dois avoir Dieu en toi. » Ça vous est jamais arrivé ? Moi non plus. Il était question de gloire, il était question de Dieu en eux. Il était question que cette unité soit parfaite, qu'il soit parfaitement un. Pourrait-il s'agir sur terre de notre manière de vivre entre chrétiens ? Gloire, perfection est quelque chose qui est en nous. Alors comment faire pour que ces choses-là se réalisent ? Bien écoutez, Il me semble que la gloire qui se voit, il s'agit plutôt d'une chose encore à venir. Que le monde qui ne nous reçoit pas, qui ne veut pas recevoir l'Évangile ni le Seigneur, ne peut pas voir, à moins que le Seigneur se rende visible dans sa gloire. Et là, Luc 21-27 dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Cette chose-là fait référence au retour en gloire de Jésus-Christ, quand il viendra avec ses saints, comme il est écrit dans Thessaloniciens, pour être glorifié même dans ses saints. La gloire dont il est question ne sera sur terre qu'à cet instant-là. Alors bien sûr, si, je vais sauter d'autres versets, bien sûr, je suis obligé, sinon il faut faire un livre sur la question. Mais bien sûr que certains apôtres ont vu sa gloire sur le mont de la Transfiguration. Bien sûr que dans une certaine mesure, on peut entreapercevoir, moi aussi je vais parler de manière imagée après avoir vu les vagues multicolores qui montent vers le ciel, nous pourrions voir peut-être les pans de la robe du Seigneur scintillant s'étendre sur nous ce soir, mais non, c'est pas ainsi que le Seigneur parle de nous révéler sa gloire. Il nous parle bien d'une gloire qui s'établira par la force et avec puissance sur la terre, que tout œil verra à son retour. Et là, ça sera effectivement une gloire parfaite, une unité parfaite, que plus aucun péché ne viendra entacher dans son Église, puisqu'elle aura été enlevée, puisqu'elle aura été ressuscitée, puisqu'elle sera parfaite par l'œuvre du Seigneur, et pas par les efforts des humains, des chrétiens ou des associations d'Église. Alors, une unité fondamentale qui reste à venir, mais une unité quand même, gloire à Dieu, dans lequel et de laquelle nous vivons déjà. Dans ce même Jean 17, au verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à venir? Le jour où nous avons cru, sa parole nous a régénérés. Elle nous a sanctifiés. Elle nous a sortis quelque part de ce monde, de ses pensées, de sa vanité, pour nous attacher à lui. Sanctifie-les par ta parole est la vérité, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu. C'est déjà quelque chose, c'est un fondement pour ce que c'est qu'un vrai chrétien, ce qui nous unit déjà. Regardons aussi dans Éphésiens, rien de nouveau, Éphésiens 4. Pendant que je parle fort, tout le monde va couper ses téléphones, comme ça on ne les entendra pas sur l'enregistrement. Éphésiens 4, ça m'arrive à moi aussi, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, d'oublier de mettre bip, le son coupé. Éphésiens 4, chapitre donc 4, du verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bon, ce soir, on n'est pas là pour développer chaque passage, mais on voit qu'il y a un seul corps, un seul esprit. Si vous avez cru, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons été baptisés, c'est dans Galates et dans Corinthiens, pour former un seul corps. C'est spirituel, mais le jour où nous avons cru, sans devenir membre d'une église locale, sans avoir signé un document, nous sommes devenus par son esprit, nous avons été baptisés par son esprit ou dans l'esprit, pour former un seul corps. Et là, il est particulièrement question de cette idée de former un seul corps entre même les juifs et les non-juifs. C'est l'homme nouveau, créer un homme nouveau qui n'est plus israélite ou païen, un seul homme nouveau. Voilà, sans distinction, en Christ, dans un seul corps. Un esprit, un corps, un baptême, une seule espérance, ça aussi c'est intéressant. Donc, ce qui nous unit déjà, c'est tout ça. Avoir reçu un même esprit, avoir maintenant une seule espérance, que nous soyons baptistes évangéliques, baptistes bibliques, que nous soyons tout ce que vous voulez, peu importe, pourvu que nous ayons cru, pourvu que, comme il est écrit dans Éphésiens 2, nous ayons été réconciliés avec le Père par le sang de son Fils. Pourvu, comme dit Éphésiens 2, 8 à 10, que c'est vraiment par la grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres, que nous ayons cru et que nous ayons reçu le salut. Tout ça, ce sont les fondamentaux. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien. Je suis allé faire des courses il y a 2 jours, et à un moment donné, il y avait une vieille dame qui était devant moi, une dame âgée, et au moment de payer, elle a sorti un chèque, elle disait « Moi, je me suis fait voler, attaquer 6 fois ». J'entends déjà ce que vous pensez. « Oh, Marseille, c'est normal. Non. » Elle s'est effectivement en fait attaquée 6 fois. Et donc, elle dit « J'ai qu'un chèque, mais il est tout froissé. » Et le monsieur lui dit « Ah, c'est pas sûr qu'il puisse passer. Oh » Et là, spontanément, « Oh, Vierge Marie, exauce-moi, fais que le chèque passe. » Le chèque est passé. À quoi on reconnaît un vrai chrétien ? Spontanément, c'est au Seigneur Jésus qu'il fait appel, c'est au Père qu'il s'adresse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est certainement pas au Saint, certainement pas à Marie, certainement pas au Pape, certainement pas, etc., etc., tous les intermédiaires qu'on pourrait mettre. C'est ça la nature. C'est pas que d'un coup on se dit « Oui, j'ai entendu à l'Église qu'il faut demander par Jésus, et je vais demander par Jésus, et je me rappelle qu'il faut même demander par le sang de Jésus. » On le sait bien que c'est par le sang de Christ qu'on est réconcilié. On le sait bien que c'est au trône de la grâce qu'on va demander. On le sait bien qu'on s'adresse à notre Père, et on le sait bien que c'est pas par Marie. Donc il y a quand même des signes fondamentaux qui attestent de ce que c'est qu'un véritable enfant de Dieu, et qui nous unissent. Qui nous unissent, que nous soyons, je vais encore plus loin, que nous soyons peut-être d'une assemblée pentecôtiste, que nous soyons d'une assemblée de frères, que nous soyons, qui sait, d'une autre assemblée, mais qu'est-ce qui sort spontanément ? Est-ce que c'est Christ ? Est-ce que c'est... Quand vous demandez à quelqu'un qui professe être chrétien, vous lui dites « Mais comment tu sais que tu es chrétien ?» Alors, s'il vous dit « Ben, j'ai toujours été chrétien. » On se pose des questions. Ou, vous voyez, ou « Mes parents étaient chrétiens et j'étais baptisé et donc je suis chrétien. » On est en droit de se poser des questions. Et si tu meurs, ah ben, j'irai au purgatoire. On peut encore se poser des questions. On peut lui poser des questions. Donc l'unité fondamentale, elle est sur ces choses-là. Avoir reçu l'Esprit de Dieu, on est dans la famille de Dieu. Savoir que c'est par grâce qu'on est sauvé sans nos œuvres, c'est aussi un signe. Savoir que ça n'est que par le sang de Christ qu'on peut être sauvé, c'est aussi un signe. Mais ensuite, il était question tout à l'heure d'une seule espérance, ben vous le savez, Dieu mettra son sceau sur ce qui nous unit déjà, lorsque dans 1 Thessaloniciens 4, 16, il dit « Nous serons tous enlevés à sa rencontre dans les airs ». Et là, « tous », c'est seulement ceux de l'Alliance Baptiste de France. Vous le saviez ? Non, vous ne le saviez pas. C'est tous les enfants de Dieu qui ont reçu son esprit, qui sont scellés de son esprit. Ce Saint-Esprit est un gage de l'héritage qui nous est réservé. Donc tous ! Vous voyez, je vous rappelle ce que nous savons tous déjà. Ce n'est pas de savoir à quelle dénomination nous servons, ou si ou là. Est-ce que nous avons ces signes-là ? Nous sommes des enfants de Dieu si nous les avons. Et le Seigneur viendra tous nous chercher. Il n'en laissera pas en chemin, il n'y en aura pas qui laisse encore travailler un tout petit peu, ou qui, parce qu'ils croyaient à la tribulation, ou mi-tribulation, ou post-tribulation, eux, puisqu'ils y croyaient, ils vont rester. Non, le Seigneur fera ce qu'il a promis, quoi que nous ayons cru sur la question d'ailleurs. Alors maintenant, ayant vu ce que c'est que cette unité fondamentale, maintenant, comme beaucoup de choses dans notre vie chrétienne, il y a ce que le Seigneur fait. Et alors on se dit, ben voilà, c'est lui qui le fera. Eh bien, sachez que sur ces passages-là que nous avons cités, il y a quelque chose qui nous appartient, quelque chose que nous avons à faire. Et j'ai appelé ça les efforts fondamentaux, puisqu'on est dans les fondamentaux. Éphésiens 4, regardez, c'est même l'introduction de ce chapitre d'Éphésiens. Ça commence parce que ce que nous avons à faire, c'est paradoxal. Je vous exhorte donc, moi, là, il s'adresse à nous, il ne parle pas à son père, il ne dit pas ce que le père va faire, il nous exhorte. C'est nous qui allons essayer d'obéir. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a tout ce que le Seigneur a fait, fait en nous et fera pour nous, mais il y a ce que nous avons à faire et qu'il ne fera pas à notre place. Quelque chose qui ne se fera pas automatiquement pour nous, parce que le Seigneur l'a promis. C'est ce qui nous revient de faire en obéissant à ce qu'il nous demande. Et il nous dit de nous efforcer, de conserver. Pas de créer cette unité, pas de la programmer. Il nous demande juste de la conserver. On a reçu quelque chose qu'on doit garder en l'état. Cette unité, elle ne vient pas de nous, il nous l'a donnée. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, en venant ici, moi je revois un frère. Je me suis converti en 1991, pas dans ce lieu, mais dans cette assemblée, l'assemblée qui à l'époque était Notre-Dame-des-Champs. Et je me souviens, le premier jour où je suis venu, comme le premier dimanche qui a suivi, quand je me suis retrouvé dans cette assemblée auprès de ses frères, j'ai spontanément été invité à rester à manger avec eux. Il y avait un repas fraternel. Je peux vous dire, il y avait des steaks hachés, des haricots verts en boîte, et une glace à la fin. Mais ce dont je me souviens, c'est que c'était un des meilleurs repas de ma vie, parce que je mangeais avec ma famille, ma nouvelle famille. Je connaissais personne, mais c'était ma famille. Ma famille, mes frères et mes sœurs, c'était une évidence. J'étais au milieu d'eux et on était parfaitement unis pendant ce repas. Je ne sais pas si Emmanuel se souvient de ce jour-là, mais moi je m'en souviens. Et de plein de petits détails. D'ailleurs, il y avait ce petit garçon en culotte, dans les langes. Je t'assure, je me souviens de toi dans les langes. On t'a changé à un moment donné. Tiens, voilà. Excuse-moi. Donc, il y a bien une unité que le Seigneur a faite par son esprit. On l'a reçue. C'est fusionnel. J'ai pas trouvé le mot exact. C'est institué, c'est fusionnel, on est tout disposé, c'est comme l'amour dans un couple, on est tout disposé, et pourtant, en étant si bien disposé, en se mariant, en disant maintenant on est une seule chair, et le Seigneur promet maintenant qu'on forme qu'un seul corps, et pourtant, combien le mariage, et j'en parle, parce que quand les gens s'attendent à ce que voilà, il y a l'amour maintenant, et puis on s'est engagé, on est tranquille maintenant. On a même pris un appartement, un crédit, on a même des enfants. Donc maintenant, ça va rouler. Mais non. Rien de tout ça ne fait rouler un couple. Ce qui fait marcher un couple, comme ce qui tient cette unité que le Seigneur a donnée pour l'Église, c'est efforcez-vous. Messieurs, dames, si vous êtes mariés, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le mariage, même si on l'annonce pas clairement, on dit oui, pour le meilleur et pour le pire, bon. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ça veut dire, si on disait pour le meilleur, pour les efforts, et peut-être pour le pire, qu'on dise pour les efforts aussi. Parce que le mariage, c'est un effort. Parce que l'unité qu'on a reçue, il faut l'entretenir. Et c'est difficile. Comme c'est difficile pour des enfants d'obéir à leurs parents, comme c'est difficile pour des parents d'être patients avec leurs enfants, comme c'est difficile les relations humaines. C'est tout. Qu'on ait des liens, qu'on s'aime ou pas, c'est difficile parce qu'on est des pécheurs, qu'on a nos caractères, c'est difficile, donc il faut faire des efforts. Et la vie, j'ai toujours cette image du saumon. Le saumon, il doit aller pondre ses œufs tout là-haut et il a passé tout son temps à remonter, à remonter, à remonter des rivières, à sauter des barrages. Et il passe tout son temps à sauter. Et puis quand il arrive, il est épuisé, il pond ses œufs, il meurt. C'est pas exactement comme ça pour nous, mais quand même, j'ai l'impression souvent que la vie... Bon, l'apôtre Paul dit plutôt, oublions le saumon, mais il dit « je cours ». Quand vous essayez de courir, je ne sais pas vous, mais moi, je le fais de moins en moins. Pourtant, j'étais sportif autrefois, même si j'en fais encore, mais pas le même genre. Il faut que ça soit ludique maintenant. J'aime moins les efforts. Mais c'est difficile de courir. Presque à chaque pas, vous dites, je vais m'arrêter. Est-ce que ça ne vous fait pas le même effet, la vie, parfois? Est-ce que chaque matin, quand vous levez, ce n'est pas comme si vous étiez en train de faire une course et vous avez envie de vous arrêter, de dire « ça suffit, je m'allonge aujourd'hui, ça recommence comme hier, les mêmes soucis ou d'autres soucis, les mêmes douleurs, les mêmes difficultés ». Ça ne vous fait pas ça l'existence? Vous n'avez pas l'impression que vivre, c'est ça? Des fois? Ou tous les jours peut-être? L'unité, de l'Église, l'unité du couple, l'unité de la famille, c'est des efforts. Presque continuels. Il y a des moments, comme les saumons, où l'eau est un peu plus calme, des moments où c'est très dur, où il faudrait sauter, mais c'est des efforts. C'est pas tout seul. Alors, le passage nous disait, par le lien de la paix. Voilà, les efforts fondamentaux, c'est quoi? C'est la paix. Chercher la paix. Voilà, qui est toujours ce but-là. Par le lien de la paix. Vous savez, quand des choses ont tendance à s'éloigner les unes des autres, parce que l'unité est faite, mais il faut la préserver, parce que le temps, parce que la lassitude, parce que le péché tentent à nous éloigner les uns des autres, à distendre les liens que le Seigneur a créés. Donc, ces liens-là, il faut tirer dessus, il faut tout faire pour que ça ne déchire pas. Mais il y a le lien de la paix qu'il faut entretenir avant tout et par-dessus tout. Cherchez la paix. C'est pour ça que dans Romains 12, 18, il est dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les gens que vous aimez. » Soyez en paix avec tous. 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 Il n'y a que le Seigneur qui peut oser dire des mots comme ça. Tout, tous, pleinement. Il peut le dire parce que lui fait tout. Il a tout accompli à la croix. Donc il peut tout attendre de nous parce qu'il a aussi donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Donc on ne peut pas dire, oui, mais là c'est trop. Et le Seigneur dit, mais je t'ai tout donné. Si tu fais appel à moi, je viendrai à ton secours encore. C'est trop? Mais bien sûr que c'est trop. Je ne t'ai pas dit que toi tu pourrais. Mais toi, tu peux me demander. Et toi, tu peux venir à moi. Alors la paix, chercher la paix autant que ça dépend de vous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais tant que ça dépend de nous, tant que nous, on a le désir de la paix et qu'on fait des efforts dans ce sens-là, ce n'est pas toujours facile de les faire. Mais si même c'est un petit effort, il faut le faire tant que la balle est dans notre camp. Tant qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Parmi les efforts, il y a l'amour. Ah non, on ne peut pas se forcer pour l'amour. Eh bien si, on peut se forcer pour l'amour aussi. Dans Colossiens, il est dit que l'amour est le lien de la perfection. Qu'est-ce qui garde une église unie? Les projets, l'achat d'un bâtiment, une campagne d'évangélisation, un planning. On entend, ah ben oui, les chrétiens ont peur du vide, les enfants ont peur du vide, il faut remplir le planning. Si vous remplissez le planning, si vous les occupez bien, ça va garder l'église ensemble. C'est pas vrai. Des églises se sont divisées, se sont déchirées au moment même, alors que tout allait bien, où ils ont décidé d'acheter un local. C'est pas que je suis contre l'idée d'acheter un local. Loin de là, c'est pas ça la question. Mais pour dire que tous ces moyens, si ce sont des moyens pour l'unité, c'est pas ça que le Seigneur a voulu. Le Seigneur utilise parfois ces choses-là, c'est vrai. Nous accorder, marcher dans une même direction. Mais ce qui est le lien, c'est toujours, toujours l'amour. Les projets-là peuvent aussi tendre, faire que les gens se disputent, ne sont pas d'accord sur combien il faut emprunter ou combien, où il faut aller. On a mis l'occasion de se disputer. Mais l'amour, si on cherche toujours l'amour, c'est le lien de la perfection. Il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Et d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de l'unité et que le monde va voir, mais il est aussi question de l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à cela ils verront que vous êtes mes disciples. Il n'est pas dit là non plus, j'abuse un peu, mais il n'est pas dit là non plus, si vous n'avez jamais de difficultés entre vous, si vous êtes parfaitement unis, toujours dans la même direction, non. Les gens verront justement parfois quand nous avons des difficultés que nous persévérons, parce qu'eux ont des difficultés. Mais ils verront qu'on a de l'amour pour passer par-dessus ces choses-là. Et c'est ça qui change tout. C'est bien ça qui fait dire que c'est le lien de la perfection. Les pasteurs aussi ont une part là-dedans. Revenons à Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Faire des efforts pour la paix, faire des efforts pour l'amour. Mais regardez, assez surprenant, verset 11. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. » Les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la... Des fois, l'apôtre, je trouve, fait des phrases... On aimerait s'arrêter, nous, les prédicateurs. Coupe, mais non, il dit tout ça. Mais bon, restons en tout cas à parvenir à l'unité de la foi. Les pasteurs, quand ils se réunissent, aujourd'hui, on a peur qu'ils trouvent une occasion de se disputer. Voilà, lui, il est prêt, mid, pros, là, celui-là, oh, il est pour la cravate, l'autre, il s'en moque, celui-là, il boit ça, il mange ça, enfin... Les pasteurs qui se réunissent maintenant ont presque, au lieu de se réjouir, de s'encourager, de s'édifier, on se dit, oh, mais lui dans son église il pratique comme ça, et nous dans notre église on pratique comme ça, les mettre ensemble, il faut les briefer avant, que quand il va prêcher, il... Alors que le Seigneur dit que normalement les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, on devrait travailler afin que les chrétiens soient parvenus à l'unité de la foi. Alors, est-ce qu'il s'agit de la doctrine dont il est question là ? La foi, celle qui nous a été donnée une fois pour toutes, celle qui est la foi qui sauve, on ne doit pas particulièrement travailler à celle-là, elle est faite, c'est le salut par Jésus-Christ. La foi de croire la même chose, là, il y a du travail. C'est du travail. Eh bien, on devrait, nous, pasteurs, chercher, faire des efforts dans ce sens. Pas faire des efforts pour se prouver que c'est nous qui avons raison et que les autres ont tort. Peut-être qu'on devrait travailler un peu à chercher l'unité de la foi. Je ne parle pas de compromis sur ce qu'on croit. Je ne parle pas de réunir ce qui ne peut pas être réuni. Mais des fois, il y a des points qui sont, comme dit l'apôtre Paul, secondaires, qui sont une question d'opinion. Alors, j'éclaircis un peu la question, parce que là... Oula, qu'est-ce qu'il veut dire, là ? Là, je ne suis pas sûr de le suivre. J'aimais bien les blagues, mais pas... On est tous d'accord. On est tous d'accord sur ce que, je pense, on vient de dire, sur ce que le Seigneur a fait pour nous, sur les efforts qu'on doit faire pour la paix. Et après... On sait bien qu'il y a des choses où on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à quel point on ne peut pas s'accorder avec lui, avec là ? Et vous savez quoi ? C'est comme dans les familles. On sait bien qu'on ne doit pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et puis, dans une famille, on a la télé. Dans une autre famille, il n'y a pas la télé chez nous. Chez nous, il n'y a pas la télé. Mais on a les DVD. Oh oui, mais les DVD, attention, on les choisit. Alors ça va, tu choisis des DVD chrétiens. Pas seulement, mais on fait attention. Mais on a aussi Internet. Oh ! Alors on n'a pas le choix. Bon, d'accord. Et d'une famille à l'autre, on pose le curseur à un endroit ou à un autre. Et vous savez quoi ? Même dans le couple, c'est difficile. À se mettre d'accord sur ces choses-là. Ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on le fait, comment on s'habille, comment on se coupe les cheveux, etc., etc. Même dans le couple, même dans la famille, ce n'est pas facile. Et là, allez-y. Trouvez les versets qui disent catégoriquement on ne regarde pas la télé, d'accord, c'est logique, mais pas les DVD. Et pourquoi pas les DVD ? Mais si on regarde des bonnes choses, ce n'est pas mauvais. Oui, mais... Mais on prend goût à quelque chose, et peut-être après on se rend compte qu'on en a des dizaines, et puis finalement on commence à voir des mauvaises choses. Et c'est vrai. Et c'est quoi aimer le monde ? Si c'est des films du monde, si c'est des gens du monde qui ont fait ça, enfin, où ça s'arrête, où ça commence ? La question, là, maintenant, c'est comme il est écrit, que chacun ait dans son cœur une pleine conviction, que chacun pose le curseur comme il pense devoir le poser. Dans sa famille, dans son couple, mettez-vous d'accord, que dans l'église... Vous avez une position sur telle et telle chose, le curseur est posé là, l'autre le posera là, le troisième le posera là. Pour ce qui concerne des opinions, des pratiques, le Seigneur nous demande d'être pas des gens de compromis, mais des gens qui comprennent que là, il est question de points secondaires où que chacun aura des comptes à rendre pour lui-même selon sa propre conscience. Si votre conscience vous trouble à regarder des DVD, arrêtez. Si votre conscience vous trouble à faire du sport, arrêtez. Si votre conscience vous trouble à passer 2 heures sur Internet, Ou plus. Alors là, 2 heures, oh mince. Je ne sais pas. Mais si votre cœur vous trouble à perdre du temps à des choses qui sont sans intérêt par rapport au poids de choses qu'on pourrait faire pour le Seigneur. Et là, pour le coup, la liste, elle pourrait s'allonger. Alors, bon, voilà, excusez-moi, ça fait partie de mes écarts, mais quoi qu'il en soit, ben, le dernier effort qu'il faut fournir, lien de la paix, amour, unité de la foi, c'est s'accorder. S'accorder. Vous savez, c'est d'un commun accord que les décisions devraient être prises dans le couple. C'est d'un commun accord, et ça c'est le Seigneur qui le fait, quand on arrive à prendre un accord en commun. J'aime bien cette expression parce qu'elle est dans la Bible. C'est d'un commun accord qu'il persévérait dans la prière. Ce n'est pas à cause d'un planning, c'est pas parce qu'un leader mettra tout le monde d'accord. Parce qu'il parle plus fort, parce qu'il est le leader, parce qu'il est dans l'église, c'est lui qui a raison. Et puis bon, et puis c'est moi le chef. Dans la famille, pareil, hein. Et puis de toute façon, c'est moi l'homme, c'est moi le mari, on n'est pas d'accord, c'est moi le chef de la famille, on n'a plus rien à dire. Quand on en est là, c'est pas sûr que ce soit exactement ça que le Seigneur veuille. Marcher ensemble, qu'est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas pour vous, c'est facile dans un couple, reprenant l'image du couple, est-ce que ça vous arrive encore de marcher bras dessus, bras dessous, comme ça, hein? Pas en vous tenant par la main, parce que c'est facile par la main. Mais comme ça, et de marcher ensemble. Ça vous arrive des fois? Comme les adolescents, de marcher comme ça, en vous tenant par la taille et l'autre comme ça. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en général, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Donc les jambes sont plus longues. Donc le balancement, c'est quasiment impossible. Alors l'autre va faire comme ça, à petits pas. Ou l'autre va attendre que l'autre ait fait ses 2 petits pas, c'est difficile, parce qu'on n'est pas pareil. Et c'est pour ça que le Seigneur parle de s'accorder, parce qu'on n'est pas pareil. On le voit l'un d'une manière et l'autre de l'autre, et c'est pas que l'un a raison ou que l'autre a tort, c'est qu'on n'est pas pareil, il faut s'accorder. Et c'est après, d'un commun accord, qu'on va trouver un rythme, l'autre allonge la foulée ou l'autre la raccourcit, qu'on arrête le balancement, je ne sais pas. Mais on trouve une solution ensemble. Le tout, c'est qu'on marche ensemble. C'est comme ça pour l'église, c'est comme ça pour le couple. Ça ne se fait pas parce que l'autre dit « tu me suis, tu cours, tu accélères le pas ». C'est ça les efforts aussi, fondamentaux. Être à l'écoute et se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Alors le dernier point, je vais un peu plus vite, c'est qu'il est aussi question de séparation fondamentale. On a parlé d'unité fondamentale, d'efforts fondamentaux, mais il y a aussi des séparations dans la Bible qui sont tout à fait fondamentales. Reprenons l'image du couple. L'institution du couple, c'est quoi? Tu aimeras ta femme et puis tous les jours de ta vie, tu te réjouiras de l'avoir à tes côtés. Et... Non, l'institution du mariage, c'est tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Pour qu'il y ait l'unité de couple, il fallait qu'il y ait une séparation d'une autre entité, les parents, la famille. Il fallait qu'il y ait séparation pour qu'il y ait une unité. L'Église s'est appelée hors d'eux, et c'est aussi pour adorer le Seigneur. On doit se séparer des choses du monde, effectivement, si on considère qu'on veut adorer le Seigneur. Et là, vous avez une quantité de versets, je pourrais vous les citer, mais vous les connaissez, 1 Corinthiens 5, qui parle de ôter le méchant du milieu de nous, qui parle que le levain n'a rien à faire dans le corps de l'Église, qui dit que ceux qui professent être chrétiens mais qui vivent ouvertement dans le péché n'ont pas part avec les enfants de Dieu. Que ceux qui, dans 2 Jean 1:10, les faux docteurs, on ne doit même pas les recevoir. Des gens qui prêchent un faux évangile, ce n'est pas vrai, on ne leur donne pas la parole dans une assemblée chrétienne. Des gens qui, oui mais ils ont des choses intéressantes aussi à dire à leur manière, il faut tenir compte de l'histoire. Mais si c'est des faux docteurs qui prêchent un faux évangile et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, comme fils de Dieu, non. On ne les reçoit pas et on ne leur dit pas « Salut !» Non. Il y a bien une séparation nécessaire à la vie de l'Église. Une séparation comme dans le couple. Non, on ne reçoit pas les anciens petits copains à la maison, comme si de rien n'était. Non. Oh, mais c'est du passé, ça. C'est rien, maintenant, c'est toi que j'aime. Ben, écoute. Et puis, les parents aussi. Non, on ne doit pas passer son temps, tout le temps, avec les parents. Ça fait du mal aussi au couple. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ton conjoint. Il faut qu'il y ait une coupure. Les choses anciennes du passé sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On vit des nouvelles, par les nouvelles et pour les nouvelles, et pas les anciennes. Alors, il y a quelques tolérances du Seigneur. La question des opinions, justement, où il est dit bon, ben, que chacun dans l'Église, chacun peut avoir sa propre opinion sur certaines questions. Là, il n'est pas la question de péché grossier, d'opinion. Ah, mais il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas transiger. Je vois qu'on discute et on rediscute, c'est facile, on va tous être d'accord sur est-ce que on peut dire qu'on est chrétien, être baptisé, membre d'une assemblée pratiquer l'homosexualité. On va dire, ben non, c'est pas possible. Et on est d'accord. Mais après, il y a d'autres questions qui sont secondaires, qui sont vraiment des questions d'opinion. Et là, marchons de même pas. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il est même question, et là, c'est surprenant, mais regardez, dans 1 Corinthiens 11. Est-ce qu'on doit tous être d'accord dans l'Église? Non. Formulé comme ça, non, bien sûr. Mais est-ce qu'on doit tous croire la même chose dans l'Église? Est-ce qu'on oserait répondre à cette question? Il faut, bien sûr, tendre à croire la même chose. Mais en attendant, si chacun a ses petits points de vue particuliers, qu'est-ce qu'on doit faire? Et même des choses plus sérieuses parfois que des points de vue particuliers. Pas en accord vraiment avec notre confession de foi, par exemple. Alors, 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Bon, je ne vais pas approfondir cette question-là, elle n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il veut dire par secte? Qu'est-ce qu'il veut dire par division? Devenir pire? Bon, dans 1 Corinthiens 11, on voit bien des gens qui vivaient vraiment clairement dans l'immoralité, qui prenaient la scène et le repas du Seigneur comme si de rien n'était, et le Seigneur va les juger. Mais on était encouragé à ce que ça ne se passe pas comme ça, et à régler ces questions-là. Et Paul ne dit pas, ben, laissez faire, c'est pas grave, le Seigneur va s'en occuper, il va le juger. Non, c'est lui-même qui dit, quoi? J'apprends que parmi vous, il y a ce dit frère, d'abord, enfin, dit, après, oui, ça sera un frère, on le reconnaîtra, parce qu'il s'est repenti, mais qui a pour femme la femme de son père, voilà, sa belle-mère. Oh ben aujourd'hui, on va en avoir des vertes et des pas mûres. On apprend quoi? Que dans l'église, il y a quelqu'un qui a un petit copain... Non, deux petits copains... c'est deux hommes entre eux. Et on apprend ça, et qu'est-ce qu'on fait? Ben non, c'est pas possible. Ce frère-là, on peut pas laisser faire ça. Ce frère qui vit dans l'immoralité, non, on ne peut pas laisser faire ça. Mais en attendant, ces sectes, des gens qui se réunissent dans l'église, et Paul ne dit pas qu'il faut les mettre dehors, il dit, bon, mais voilà, il y en a. Ça arrive qu'il y ait des différences, qu'il y ait au sein de l'église, que tout ne soit pas parfaitement calibré. J'en dis pas plus, je dis que ça arrive. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que Paul l'approuve? Non, il l'approuve pas. Je crois pas. Mais il dit, en tout cas, ça permet de savoir qui c'est qui croit la vérité et celui qui se trompe. Voilà, ça permet de voir que ce groupe-là, ils vont pas comme il faut. Enfin, ça se voit, tout le monde s'en rend compte. Et je termine avec la célèbre dispute. Ce que Dieu tolère. Ce que Dieu tolère. Parmi les séparations fondamentales, on le connaît tous, hein? À qui vous pensez? Puisqu'on le connaît tous. Paul et Silas, voilà. Là, ça fait partie des séparations fondamentales. Pas pour dire que c'est bien, mais c'est dans notre discours, on a bien compris qu'il arrive que parfois ça se passe mal entre serviteurs de Dieu et qu'il y ait séparation. Alors, oui, ils se sont disputés. Les termes sont suffisamment clairs. Regardez Actes 16, verset 36. Non, c'est pas la bonne référence, ça m'arrive. Non, c'est pas la bonne référence. C'est 15, 36, pardon. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Vous voyez, un bon projet. On va aller voir les frères, on les a évangélisés, on va voir où ils en sont. Bon projet, allons-y ensemble. Malheureusement, détail pratique. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Bon, c'est pas qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, pourquoi pas. Mais non, mais Paul, lui, n'est pas d'accord. Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qu'ils avaient quitté depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Est-ce que c'est une différence d'opinion, différence de point de vue? Vous savez, l'Église, elle s'est divisée parfois sur des questions de... Les chrétiens peuvent aller au théâtre ou ne peuvent pas aller au théâtre. Autrefois, le théâtre, c'était aussi les arènes, c'était aussi des sacrifices, enfin des hommes qui s'entretuaient, enfin, ou l'hypocrisie. Déjà, à cette époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait déjà des discussions sur comment un chrétien peut marcher dignement ou pas. Sur des détails comme ça, ils se sont divisés. Ben là, est-ce qu'on est là-dedans? Non, mais c'est quand même une différence de point de vue. Ce frère, manifestement, les a abandonnés. Barnabas dit, allez, c'est une seconde chance. Et Paul dit, non, c'est trop dangereux. L'œuvre, c'est trop sérieux. Il y a deux points de vue. L'œuvre, c'est trop sérieux. On ne peut pas compter sur quelqu'un qui fait défaut en plein travail d'évangélisation. C'est un mauvais témoignage. On ne peut pas le faire. Les deux avaient leur point de vue. Oui, mais quand même, je vois bien les discussions qu'ils ont dû avoir. Le temps a dû monter. Le dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent. Ça faisait un moment qu'ils travaillaient ensemble. Paul avait été formé par Barnabas. Ils se séparent sur des points de vue, sur un point de vue particulier. C'est un dissentiment. Ce n'est même pas un désaccord. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est que même leurs sentiments, l'un à l'égard de l'autre, commençaient à mal tourner. Et il y a le mot vif, j'aime bien les termes bibliques parce que vif, ça voudrait dire waouh, ça a chauffé, c'était waouh, il fallait sortir de la pièce hein, parce que imaginez un peu le dissentiment, il y a dû avoir des mots forts, hein, vif. Et ils se sont séparés, sans coup faire rire, séparation, moi je pars par là, je fais ce que j'ai dit, ah ben toi tu pars par là, ben moi je ferai comme ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous connaissez la suite de l'histoire. Barnabas prend Marc, il s'embarque pour l'île de Chypre, et Paul, lui, choisit Silas et il part. Chacun part de son côté, ils font chacun leur équipe et chacun font leur travail pour le Seigneur. On sait de la suite de l'histoire que, grâce à Dieu, ça s'est mieux terminé, que Marc a été ramené donc dans l'œuvre, même auprès de l'apôtre Paul. Paul va même se réjouir de le voir revenir, donc je pense que le dissentiment s'est bien sûr éteint. Mais en attendant, à cet instant-là, ils se sont séparés. Tous les deux avaient tort. Par rapport à ce qu'on sait des Écritures, on ne devrait pas se séparer sur une dispute. Imaginez, dans le couple, on se dispute, ben voilà, je m'en vais. Alors c'est l'œuvre, c'est pas un mariage, l'unité n'est pas la même. Mais quand même, la séparation, parce qu'il y a une dispute ou un dissentiment, c'est pas une bonne chose. De tout laisser tomber, de quitter, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas l'attitude que le chrétien devrait avoir. Tous les deux ont tort, mais finalement, tous les deux ont raison. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils avaient tous les deux raison. Chacun, avec leur point de vue, avait raison. Il fallait donner une seconde chance à Marc. Et Marc a saisi cette deuxième chance. Mais il ne fallait pas utiliser Marc dans l'œuvre avec tout... Peut-être tous les dangers qui allaient arriver dans l'œuvre. Ben, tous les deux avaient raison. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'aime, et c'est un peu la fin de ce message, c'est qu'ils ont été recommandés par les frères à la grâce de Dieu. Quand ça va mal, nous, on est témoins. La dispute, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire, oh, Seigneur, je ne suis pas le gardien de mon frère, je ne sais pas mon affaire, je ne peux rien faire. Qui se débrouille? Ils savent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire. En plus, c'est les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à moi à venir donner une leçon à un serviteur de Dieu, quand même, chevronné comme l'un et l'autre. Philippiens 4.3 m'a encouragé plusieurs fois à ne pas laisser faire certaines situations. Quand Paul dit à propos de Saint-Tiche et Évodie, je te prie de les aider. C'est pas facile. Ils sont dans une situation maintenant, ils se sont eux-mêmes enfermés dans leur certitude et dans leur dissentiment. Pour les sortir, ils vont pas s'en sortir par eux-mêmes, je te prie de les aider. Des fois, une aide extérieure est utile. Donc, conclusion, merci Seigneur. Il a accompli et il nous donne tout ce qui nous unit et ce qui va nous réunir finalement au ciel. Mais il y a notre part. Efforçons-nous. Faisons encore des efforts. Continuons à rechercher la paix. Continuons à rechercher l'amour. Continuons à discuter, à réfléchir sur la foi, tout en n'étant peut-être pas d'accord aujourd'hui, qui sait. Tant que c'est la parole de Dieu qui est l'objet de nos discussions, ça va. Tant qu'on peut discuter à partir de la Bible. C'est vrai dans nos églises, c'est vrai dans nos familles, c'est vrai au sein de l'ABF, c'est vrai avec les frères et les sœurs. Je répète, dû construire mon message comme je vais vous laisser maintenant l'idée. La pensée du Seigneur, c'est qu'on garde un même cœur. C'est l'amour. C'est qu'on parle d'une même foi, ou d'une même voix, pardon, c'est les deux. Parler d'une même voix, c'est avoir la même foi, rechercher la même foi et rechercher ce qui nous unit en pratique. Et marcher de même pas. S'accorder. Voilà, garder un même cœur, parler d'une même voix et marcher d'un même pas.